Il est actuellement professeur émérite et ex-directeur du département de médecine expérimentale à la faculté de médecine à l'université Claude Bernard de Lyon. Il est membre de l'Académie des sciences, docteur honoris causa de l'université de Zurich, de Technion en Israël, de l'université de Liège et de l'université de Montréal. Il a reçu en 1983 le prix de la Fondation pour la recherche médicale, en 1991 le prix mondial Simone et Sino del Duca, enfin et surtout en 1989 la médaille d'or du CNRS. Outre des publications dans des revues très spécialisées, il faut mentionner pour des revues à un plus large public plusieurs ouvrages, notamment Le sommeil et les rêves paru chez Odile Jacob en 1992, Le château des songes paru chez Odile Jacob en 1992, Le grenier des rêves paru chez Odile Jacob en 1997, et actuellement deux autres ouvrages sont en préparation. Voilà, je vous remercie et je donne maintenant la parole au professeur Jouvet.
Bonsoir. Je vais vous parler de quelque chose dans lequel vous êtes tous experts, c'est-à-dire le sommeil. J'ai un site web, dont j'essaierai de vous retrouver son numéro, où il y a 46 000 références. Donc c'est pour vous montrer que c'est quelque chose qui reste, quand il y a beaucoup de références sur quelque chose, c'est que c'est inconnu. Mais je pense que si on faisait ici ce qu'on appelle un consensus, si on demandait à tout le monde de se mettre d'accord sur des faits qui concernent le sommeil, je pense que vous seriez d'accord au moins sur les quatre choses suivantes. La première, c'est que l'homme a plutôt tendance à dormir la nuit plutôt que le jour. Vous êtes tous d'accord là-dessus. La deuxième, c'est que lorsque l'on dort, on n'est pas conscient de ce qui se passe autour de nous en général. La meilleure preuve, c'est que le ronfleur ne sait jamais qu'il ronfle. Donc, il y a quelque chose qui vient arrêter un type de conscience. La troisième chose qu'il faut essayer de comprendre, c'est une espèce d'adaptation du sommeil à l'éveil. Plus on est éveillé longtemps, par exemple au cours des fêtes du Nouvel An, si vous avez passé toute la nuit à danser, eh bien, la nuit après, il est fort probable, sauf si vous avez bu, que votre sommeil a été plus long et surtout qu'il a été plus profond. Il existe donc quelque chose qui adapte le sommeil à l'éveil. Et enfin, la quatrième chose qu'il va falloir essayer d'expliquer, c'est que même si on est inconscient complètement de ce qui se passe autour de nous pendant le sommeil, il n'en existe pas moins une activité, une conscience automatique endogène qui est déclenchée périodiquement au cours du sommeil et que 80% d'entre vous ont expérimenté. C'est la conscience onirique, ce sont les rêves. Donc quatre choses qui ont commencé, qui s'organisent dans une nuit de sommeil et qui ont commencé, la première, il y a à peu près 3 milliards d'années. C'est-à-dire que ce que je vais essayer de vous mettre dans la tête quand vous vous endormirez cette nuit, c'est que dans votre sommeil, vous récapitulez des acquisitions, certaines d'entre elles extraordinairement importantes, qui ont commencé il y a extrêmement longtemps et qui se groupent ensemble pour fabriquer ce qu'on appelle le sommeil. Et c'est pour ça que c'était quelque chose d'extraordinairement compliqué parce que tout cela se mélange ensemble et tout selon le milieu, selon les choses écologiques et tout, si bien qu'on peut, on peut pas parler d'un sommeil, on peut parler d'un sommeil pour une personne. Eh bien, on va d'abord voir le premier problème, pourquoi l'homme dort la nuit. Eh bien, vous pourriez me dire, c'est très simple, parce que l'homme dort la nuit, parce que ça revient moins cher, c'est vrai. Ça revient moins cher de dormir la nuit, on n'a pas à s'éclairer, on n'a pas à se chauffer. Et pendant très longtemps, ça a été l'explication que l'on a donné. Comment prouver que cette explication est fausse? C'est-à-dire que ce n'est pas dû simplement au cycle sommeil-obscurité. Pendant très longtemps, on a pensé que l'homme dort la nuit parce qu'il fait nuit. Il fait nuit, il n'y a rien d'autre à faire, il dort la nuit. Comment prouver que c'est faux? Il n'y a pas tellement longtemps qu'on a prouvé que ce concept-là était faux. Je vais vous montrer la première diapositive qui représente des expériences qui se font actuellement. Vous vous rappelez tous des expériences de Michel Siff. Je ne sais pas s'il est sorti de son trou. Comment savoir si quelqu'un s'endort la nuit, si le sommeil est dû à l'alternance du lumière-obscurité? Ben, c'est très simple. Vous mettez quelqu'un soit dans un bunker complètement fermé et il n'a aucune relation avec le soleil, on lui enlève sa montre, on lui donne une fausse montre et on lui permet d'allumer quand il veut, d'éteindre quand il veut, ou bien, c'est ce qui a été fait par Michel Siffre lors des premières expériences quand il se qualifiait de spéléonaute, on le met tout simplement dans une grotte. Alors voilà ce qui se passe quand quelqu'un est sous la dépendance du soleil. Ces courbes-là représentent les courbes pendant lesquelles quelqu'un va être endormi, et là, c'est quand il est éveillé. Eh bien, quand il est endormi, c'est fixé, il s'endort à 8h, 9h le soir, quand le soleil se couche, et il se lève à 8h du matin. À partir de là, du 20e jour, on laisse le sujet dans des conditions dites free-running, dites en totale désynchronisation, dites hors du temps, dans lesquelles le soleil ne peut plus jouer son rôle de donneur du temps. Et comme les premiers expérimentateurs dans ce qu'on appelle la chronobiologie ont été des Allemands, on dit également Zeitgeber, ce qui donne le temps. Zeit, le temps, Geber, qui donne. Donc, en dehors de tout Zeitgeber, voici à quel moment le sujet dans sa grotte va se coucher. Vous voyez que chaque jour, il va se coucher un peu plus tard. Si bien qu'après une dizaine de jours, il va avoir en quelque sorte manqué un jour. Pour les gens qui sont à la surface, ils vont dire ben, il est resté 20 jours dedans, et pour lui, ce sera seulement 19 jours. Eh bien, comment expliquer ça? Eh bien, d'abord, la première explication, c'est que, indiscutablement, le soleil et l'obscurité, la lumière et l'obscurité, ne jouent aucun rôle dans l'entretien de ce rythme. La deuxième chose, c'est que le rythme n'est pas exactement de 24 heures. Vous voyez qu'il est un peu plus de 24 heures et ça varie selon les individus. Siffre a une période qui était relativement longue, mais on admet actuellement que la période endogène d'un sujet que l'on met dans une grotte ou dans un bunker est de 24,3 heures. 24,3 heures, ce n'est pas exactement un jour. Alors, on le dit en latin, à peu près un jour, à peu près se dit circa, jour dies, circadien. Et ce mode circadien, que vous connaissez tous, en fait, est apparu dans la littérature il n'y a pas tellement longtemps, seulement à la fin des années 60, par Heilberg, qui a été l'un des grands chronobiologistes. Donc, déjà, on voit qu'il y a quelque chose qui fait qu'on va se coucher chaque jour un peu plus tard, mais à peu près 24 heures. Alors, quelle est l'explication? Eh bien, l'explication est la suivante. Elle est extraordinaire, cette explication. Ah, l'explication, là, il y a un bonhomme qui est dans la tête d'une horloge, mais c'est l'inverse. Nous, on a une horloge dans la tête. Et cette idée d'avoir une horloge dans la tête, eh bien, c'est une idée extraordinaire. C'est une idée qui est venue un jour au XVIIIe siècle. Qui pouvait avoir une idée qu'il y avait une horloge dans notre tête ou dans les plantes? Eh bien, il y avait un astronome qui s'appelait François Ortus de Meyran, O-R-T-U-S-D-E-M-A-I-R-A-N, qui aimait beaucoup les plantes. Et il avait chez lui un Mimosa pudica. Vous avez tous vu des mimosas. Les mimosas, quand il fait jour, leurs plantes, les feuilles se redressent comme ceci. La nuit, elles se referment comme ceci. Alors, ce brave astronome regardait sa plante qui faisait comme ceci lorsqu'il y avait le soleil, qui faisait comme ceci lorsque c'était la nuit. Et il a eu l'idée, une seule expérience, pas de statistiques, un concept fantastique, il a eu l'idée d'enfermer ces mimosas dans un placard. Alors vous voyez ici ce qu'il voyait normalement. Ça, c'est un dessin que je dois à ma fille quand elle avait une dizaine d'années. Donc voilà le jour, les mimosas qui redressent leurs feuilles. La nuit, je ne sais pas si vous les voyez bien, le mimosa qui resserre ses feuilles. Il a enfermé le mimosa dans un cabinet noir. Il a ouvert à midi et il a vu que le mimosa savait qu'il y avait le soleil, puisque les fleurs, les feuilles étaient ouvertes. Il a ouvert à minuit, il a vu que les feuilles étaient refermées. Il a écrit une note d'une page dans les comptes rendus de l'Académie des sciences de 1729 en disant « Eh bien, il n'y a pas d'autre explication, c'est qu'il y a une horloge à l'intérieur du mimosa. » Génial, une expérience, le concept qui arrive. Et bien entendu, tout le monde a dit, bon, ce type, l'astronome, il s'occupe de choses qu'il ne regarde pas, on l'a laissé passer. Il a fallu attendre 100 ans, en 1820, pour que l'un des meilleurs botanistes de l'époque, qui était à Genève, de Candolle, dont certains d'entre vous connaissent le nom, enregistre, 1820, il y avait déjà des appareils enregistreurs, enregistre les mouvements des feuilles du mimosa, lorsqu'ici c'est la nuit et le jour, et s'aperçoivent que pendant 1, 2, 3 et 4 jours, on continue à voir dans l'obscurité totale ce mouvement-là qui continuait et qui allait ensuite un petit peu en diminuant. Et il a donc dit, d'accord, de Méran avait raison, deux, on peut enregistrer ce phénomène, et la seule explication en effet, c'est que la plante connaît sans savoir, il doit y avoir quelque chose qui ressemble à une horloge. Eh bien, cette horloge qui nous permet d'aller nous coucher le soir, même si on ne connaît pas l'heure, etc., a joué un rôle fondamental. Alors, on va d'abord maintenant savoir où elle se trouve dans notre cerveau. Et ensuite, pourquoi on a une horloge. Ce n'est pas tellement le fait qu'on a une horloge, mais elle est à la base dans tous les êtres vivants, que ce soit les unicellulaires et jusqu'à l'homme, elle est à la base de ce que je pense l'être d'une plus grande invention au cours de l'évolution. Ce que je vous expliquerai tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie prédictive. Alors voyons d'abord l'horloge, où elle se trouve. Eh bien, très rapidement, on s'est aperçu, en travaillant sur des plantes ou sur des animaux, et en les laissant en libre cours, que lorsqu'ils avaient un rythme à 24,4 heures, 24,5 heures, il suffisait de donner un bref éclair de lumière pour que l'horloge revienne se remettre à 24 heures. C'est-à-dire que le rôle du Zeitgeber solaire, de la lumière, était très important pour venir se remettre. C'est-à-dire que votre horloge, à vous, eh bien, elle marche sur 24 heures, parce que vous n'êtes pas complètement désynchronisé. Donc, elle est en rapport avec la lumière. Donc, elle est en rapport chez l'homme avec les yeux, puisqu'il n'y a pas d'autres endroits où on sait la lumière. Quelle lumière? Eh bien, il y a un mois seulement que l'on sait que c'est la lumière bleue. Pendant très longtemps, vous avez vu des gens qui se mettent de la lumière devant les yeux, les psychiatres qui leur donnent des trucs, c'est de la lumière blanche. Eh bien, on sait, par un travail très remarquable de biologie moléculaire d'une équipe de Toulouse, qui est dans le dernier numéro de Médecine Science, que c'est la lumière bleue. En fait, c'est le ciel bleu. Si vous voulez recaler votre horloge, regardez le ciel bleu avec, quand il brille beaucoup, ça suffit. C'est la lumière bleue qui est suffisante pour recaler la lumière. L'horloge se trouve dans les yeux de la mouche. Je ne vous raconte pas toutes les expériences qui ont été faites pour les trouver. Elle se trouve chez les oiseaux. Elle a été longue à trouver. On a rendu des oiseaux aveugles. Et on s'est aperçu bien sûr que l'horloge continuait à marcher. Et on a voulu les resynchroniser en donnant de la lumière devant les yeux. Ça n'a pas marché. On s'est aperçu que chez l'oiseau, l'horloge, c'est la glande pinéale ou l'épiphyse qui est située juste sous l'os du crâne. L'os du crâne d'un oiseau laisse passer suffisamment de photons pour que le soleil vienne agir sur l'horloge. Mais en fait, de toute façon, je ne suis pas là ce soir pour vous parler des oiseaux. Où est-ce que c'est chez l'homme? Eh bien, chez l'homme, bien sûr, elle est en rapport avec la vision, mais il a fallu, en fait, très longtemps. Moi, quand j'ai commencé mes travaux sur le seul animal, entre parenthèses, qui a une horloge qui marche très mal, qui est le chat, ben, on verra ça après, pourquoi. Le chat n'a pas d'horloge, le chat n'a pas de rythme circadien, Le chat dort autant le jour que la nuit, pour des tas de raisons. Ce serait trop long d'expliquer. L'horloge chez l'homme n'a été trouvée aussi que dans les années 70. Donc, pour moi, ce n'est pas très vieux. Les années 70, ça ne fait jamais que 30 ans. En regardant certaines projections de la rétine, on s'est aperçu qu'il y avait deux systèmes dans le cerveau. Il y a un système visuel que vous connaissez bien, qui va de la rétine, qui passe ici dans le cerveau, qui passe dans le noyau géniculé latéral, puis on a dû vous en parler puisque vous avez eu des cours sur la vision, et qui se termine ici au niveau du cortex occipital. C'est le système dit visuel, qui fait que je vois, vous êtes là. Mais depuis, on sait qu'il y a un système photique, c'est-à-dire que le système de l'horloge, il y a certaines cellules ganglionnaires de la rétine qui vont envoyer, c'est ici en rouge, je ne sais pas si vous voyez ça, leur terminal dans ce qu'on appelle le SCN, suprachiasmatic nucleus, ou bien le noyau suprachiasmatique, qui est un tout petit noyau. Et bien, ce tout petit noyau, c'est l'horloge chez l'homme. Il reçoit donc des afférences visuelles, et à partir de là, il y a tout un système qui va prévenir le cerveau qu'il fait jour. Ce n'est pas parce que vous êtes conscient qu'il fait jour par votre système visuel que votre cerveau le sait. C'est-à-dire qu'il y a deux systèmes dans votre rétine. La meilleure chose, c'est qu'il y a des animaux qui sont aveugles, il y a un rat qui est complètement aveugle, et il lui reste deux ou trois petites cellules cachées sous la peau, et ce système est suffisant pour venir activer son noyau suprachiasmatique. C'est-à-dire qu'on peut être totalement aveugle, mais le cerveau va continuer à savoir qu'il fait jour. Et certains, actuellement, se demandent si certaines maladies psychiatriques, ça ne pourrait pas être l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut voir très bien, mais que le système photique marche mal, c'est-à-dire que votre horloge, qui sera toujours là, va être mal recalée tous les matins, et qu'à certains moments, elle va donner l'ordre à votre organisme, donc quand il sera 3 heures de l'après-midi, l'horloge va dire « c'est 3 heures du matin ». C'est-à-dire qu'à 3 heures du matin, vous êtes mal fichu. Donc il y a une théorie de la dépression qui est là-dessus. Et c'est pour ça que vous avez dû voir ou lire que pour traiter certaines maladies dépressives, en particulier les maladies qui surviennent d'hiver, on fait regarder aux gens le matin des tas de tubes fluorescents. Mais maintenant, il faudrait mieux qu'ils soient bleus. Bien. Donc à partir de là, l'horloge est située ici. Une grande partie de l'horloge. Mais chez l'homme, il y a un autre système qui a été mis en évidence aussi il n'y a pas tellement longtemps. Je vais vous montrer la chinoiserie des liaisons dans le cerveau. Voilà l'œil. Voici l'arrivée des influences visuelles au niveau de votre horloge, le noyau suprachiasmatique qui est situé ici. Le noyau suprachiasmatique, il faut qu'il dise à la pinéale, qui est l'horloge de l'oiseau, qui est la glande épiphysaire qui est située ici, exactement là, si vous pouvez regarder, elle est située là-dessous. La pinéale fait partie du système de l'horloge. Mais regardez comme l'évolution a fait les choses simplement. Vous pourriez vous dire, pourquoi est-ce que finalement, il n'y a pas une liaison tout droite par ici, directement ici? Ah non, non, non. Les choses sont beaucoup plus compliquées. Ça passe ici dans l'hypothalamus, ça descend dans la moelle, dans ce qu'on appelle le tractus intermédio-lateralis. De là, ça passe dans les ganglions, dans le système sympathique, ganglion cervical supérieur, et puis il y a une innervation sympathique qui vient dire à la pinéale, eh bien, il fait jour. Donc vous avez tout un système qui transmet l'information visuelle, qui fait tout ce tour-là. Quoi qu'il en soit, c'est extrêmement important, parce que la pinéale, vous devez savoir au moins, la moitié d'entre vous, comme vous êtes très cultivés, je dirais que 80% d'entre vous savent que la pinéale libère une hormone qui a fait beaucoup de bruit il y a 4 ou 5 ans. On a dit, ça y est, on a trouvé l'hormone du sommeil, qui guérit tout, qui rajeunit tout le monde. L'hormone de... C'est la mélatonine. Donc, dès qu'il fait jour, eh bien, la mélatonine n'est plus sécrétée. Dès qu'il fait nuit, la mélatonine est sécrétée. Donc, notre cerveau, en permanence, est sous l'influence et des influences du noyau suprachiasmatique qui peut agir directement pour nous donner envie de dormir, et également, puisque la pinéale sait quand il fait nuit, elle se met à libérer de la mélatonine et elle va donc, à ce moment-là, contribuer à provoquer l'endormissement à peu près une heure après le coucher du soleil, normalement. Et si vous voulez savoir ça, ben c'est très simple, puisque la mélatonine passe dans la salive, eh bien on fait cracher les gens qui ont fait des expériences tous les 5 minutes dans un petit tube, on dose la mélatonine. Quand il fait jour, on ne voit rien du tout. Et dès qu'il fait nuit, on voit le taux de mélatonine qui grimpe. Ça permet donc de repérer ce rythme-là. Bien. Donc, retenez cela. Nous avons une horloge principale dans la tête. Elle a été... Le concept en a été apporté par un astronome génial en 1729. La preuve que cette horloge existe, c'est animal et tout. La véritable preuve qu'il n'y a qu'une horloge n'a pas encore été totalement apportée, mais on peut dire qu'elle est presque apportée. Mais à l'intérieur des chronobiologistes, il y a ceux qui pensent qu'il y a une horloge, deux horloges, N horloges. Ils se battent tous entre eux. De toute façon, on a une horloge qui nous dit à quel moment il faut s'endormir normalement, même quand il fait nuit. Et à ce moment-là, pourquoi ? La suivante. C'est pas moi. C'est mon problème. Un problème d'âge. Voilà. Cette horloge nous dit, disons qu'elle sert à insérer le sommeil pour 24 heures. Mais elle n'est pas responsable du sommeil. Et la preuve est donnée par cette expérience-là, pas facile à faire. Voici ici un rat qui est soumis normalement qui est dans l'obscurité et qui continue à marcher puisque son noyau suprachiasmatique lui dit, ça c'est l'éveil, lui dit d'être éveillé, de dormir, d'être éveillé ou de dormir. Donc ça c'est le contrôle. Ensuite, qu'est-ce que l'on fait ? On détruit l'horloge. Attention, c'est une horloge, ce n'est pas le centre du sommeil. Et qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, vous voyez qu'on a complètement détruit le rythme circadien, puisque vous n'avez plus d'horloge qui vous dit toutes les 23 heures, toutes les 24 heures, il faut dormir. C'est pareil chez le rat. Et à ce moment-là, le rat va dormir par un rythme qui est plus rapide que le rythme circadien, et on appelle ça quelque chose qui est plus rapide, c'est le rythme ultradien. S'il était moins rapide, on dirait que c'est le rythme infradien. Un rythme qui survient tous les mois est appelé infradien. Un rythme qui survient plusieurs fois par jour ou plusieurs fois par heure est appelé ultradien. Ces expériences-là sont très difficiles à faire. Ça, c'est à peu près 1, 2, 3, 4, 5. 5 rats qui ont été bien réussis sur 50 rats qui ont dû être opérés parce que c'est un noyau qui est grand comme une tête d'épingle, mais dont l'explication n'est pas... Vous voyez que là, le rat est éveillé, il dort, il est éveillé, il dort. Et l'explication de ce rythme ultradien dans la physiologie du sommeil n'a pas encore été amenée. Et elle pose des tas de problèmes passionnants, mais qui dépassent un peu notre problème. De toute façon, c'est pour dire à ceux d'entre vous qui veulent faire de la recherche, un endroit où il y a de la place, je ne sais pas s'il y a de l'argent, mais où il y a beaucoup de choses à trouver, c'est le sommeil. Il y en a beaucoup plus qu'en biologie moléculaire, etc. Le sommeil, c'est là où il y a le plus d'inconnus que l'on puisse imaginer. Maintenant que vous savez où est l'horloge, que vous savez que ce n'est pas le centre du sommeil, entre guillemets centre, mais qu'elle sert à installer les périodes de sommeil, à quoi ça peut bien servir ? Pourquoi est-ce qu'on a une horloge ? Je vous ai dit que c'est l'une des plus grandes inventions qui soit. Eh bien, je vais vous montrer, je vais essayer de refaire ce qui s'est passé il y a 3 milliards d'années. Au niveau de l'océan primitif, on a dû vous dire quand c'est arrivé ça, quand il n'y avait que des euglènes, qui étaient des algues très primitives, qui étaient des algues bleues. Voici l'océan primitif. Et bien sûr, je le présente sous une forme un petit peu. Voilà le soleil qui se lève au-dessus de l'océan primitif. Voilà le soleil en plein midi. Voilà le soleil qui se couche. Idem, deux types de glènes. On va Imaginez un type de glène. Les euglènes, vous savez, c'est ces algues bleues, primitives, qui ne contiennent que du RNA messager, qui sont les premières formes de la vie, etc. etc. Elles se baladent dans le fond de l'océan, puis elles arrivent ici, et puis elles redescendent ici. Elles se nourrissent essentiellement de photons. Les photons, la lumière du soleil, va déclencher des tas de réactions chimiques pour qu'à la fin, ça donne des sucres. Supposez une glène qui ne soit pas particulièrement intelligente, qui soit une des premières arrivées, elle va mettre en jeu tous les systèmes lorsque le soleil est au zénith. La première glène, qui a un peu loupé son coup, va mettre en jeu les synthèses protéiques, ça dure à peu près 5 ou 6 heures, qui vont lui servir ensuite de fabriquer des sucres à partir du soleil. C'est-à-dire que, quand elle va arriver ici, tout va être prêt pour fabriquer des sucres. Malheureusement, le soleil sera couché. Donc, pas de chance, les euglènes filles, il n'y en aura pas beaucoup. Et à la suite de combien d'essais et d'erreurs, il a fallu que, brusquement, étant donné que la courbe de la Terre au cours du Soleil, c'est quelque chose d'éminemment prédictif, il a fallu qu'un autre mécanisme se mette en jeu, qui est cette horloge, pour que les euglènes se mettent à fabriquer tous les mécanismes de synthèse des protéines avant, démarrent à 6 heures du matin, pour que le soleil étant au zénith, toutes les choses soient prêtes et pour que tout marche. Parce que dans la vie, il faut qu'il y ait des choses qui soient préparées, prédites, pour que lorsque le stimulus arrive, tout puisse marcher. Et cette invention-là, c'est ce qui est fabriqué, c'est ce qu'on lui a donné le nom d'homéostasie prédictive. Et sans ce système-là, la vie serait impossible. Tout système vivant entre en réaction avec les milieux extérieurs. Et cette réaction va, vous le savez bien, entraîner des tas de systèmes chimiques qui sont plus ou moins rapides. Mais s'ils ne sont pas préparés par la synthèse des protéines et tout ça qui sont faits avant, le système ne marchera pas. En particulier le système qui dépend du jour et de la nuit. Eh bien, voilà l'homéostasie prédictive chez les euglènes, mais c'est pareil chez l'homme. L'homme, il ne faut pas le voir comme il est maintenant. Il faut voir l'homme lorsqu'il était il y a 200 000 ans. L'homme qui se réveillait le matin, qu'est-ce qu'il avait à faire? Il avait à sortir de sa grotte. Il allait à donner quelques grands coups de massue sur les types de l'autre grotte, essayer de lui prendre ses femmes et essayer de trouver un peu de nourriture. Donc il fallait que le matin, à 8 heures du matin, il ait son système cortico-surrénalien, ses muscles, qui soient en parfait état pour se bagarrer. Et bien entendu, ça ne peut pas démarrer le matin. Ça doit être mis en jeu la nuit. Et c'est l'une, parmi toutes les homéostasies prédictives, il y en a une qui est très particulière, que je vais vous résumer sur cette diapositive-là. Alors, c'est la suivante. Voici un animal qui a remarqué plutôt le comportement diurne, c'est-à-dire que c'est supposé que ce soit vous. Le jour, vous êtes actif, la nuit, vous n'êtes pas actif. Qu'est-ce qu'il vous faut le matin? Il vous faut avoir des charges plasmatiques maximales en glucocorticoïdes, en cortisol. Si vous n'avez pas de cortisol le matin, vous ne pouvez pas vous bagarrer. Il faut être... C'est la gonflette, hein, les types qui sont... Pardon. Bien ça peut démarrer que très très tôt. Vous voyez que ça va commencer à démarrer surtout vers 2h, 3h du matin. Comment? Eh bien d'abord, il va falloir que l'hypothalamus se mette à libérer certains facteurs. Et là, c'est le CRF, c'est le corticotropin releasing factor de l'hypothalamus, lequel va agir sur la CTH, lequel va agir sur la corticosurrénale Et la corticosurrénale, ça va donc monter. Voilà votre taux de cortisol le soir, quand vous n'avez plus besoin de vous bagarrer. Et vous voyez, le taux de cortisol le matin. Si ça ne s'était pas passé avant, eh bien le matin, vous auriez un taux de cortisol comme ça, et on ne serait pas là pour écouter cette conférence, parce que les types, ils n'auraient pas survécu. C'est-à-dire qu'au cours de la nuit, très souvent, c'est vers 2-3 heures du matin, se mettent en route les véritables mécanismes dont vous aurez besoin lorsque vous vous réveillerez. Lorsque nos ancêtres se réveillaient, maintenant on n'a pas les... Encore que c'est un peu toujours la même chose. Enfin, c'est pas avec les muscles obligatoirement qu'on gagne sa vie maintenant. Enfin, il y a encore des gens qui sont obligés de faire leur vie comme ça et piquer les filles les plus jolies à côté d'eux et puis tuer des animaux, etc. Donc tout ça se passe la nuit. Donc vous voyez bien l'importance capitale de l'homéostasie prédictive et de l'horloge. Sans cela, on va se retrouver dans un moment avec cette homéostasie-là qui va entrer en rapport avec une autre homéostasie et quelquefois, dans la vie moderne, les deux se trouvent complètement dérangés et ça entraîne tous les troubles dont on est bien conscient. Bien. Alors, là, on était à moins 3 milliards et quelques années. On va remonter rapidement dans l'histoire du sommeil, très rapidement, mais il ne faudrait pas... On va passer des euglènes, des monozoaires qui ont inventé l'homéostasie prédictive. On va passer aux ectothermes. Les ectothermes, ce sont les lézards, ce sont les batraciens, ce sont certains reptiles, pas tous, hein, les très gros reptiles comme le varan de Komodo, il a sa température interne qui est conservée. Donc à ce moment-là, quel est le rôle de l'horloge? Comment se fait la limite? Qu'est-ce que c'est que le sommeil chez ces animaux-là? Eh bien, les physiologistes n'osent pas tellement parler de sommeil chez une grenouille, chez un lézard, parce qu'ils parlent plutôt de repos. Ils parlent du cycle activité. Alpha, rho, activité, repos. Et quel est le principal facteur qui va entretenir le repos et l'activité? Eh bien, c'est essentiellement, bien sûr, c'est le soleil, mais c'est essentiellement la température. La température qui monte fait que l'animal va être actif, et la température qui descend fait qu'il va être inactif. Simplement, avec le changement de température, l'animal va être actif ou ne le sera pas. Par exemple, vous pouvez très bien aller chercher en été, quand il fait un peu frais, vous pouvez très bien aller chercher une vipère par le bout de sa queue à minuit, elle vous mordra pas parce qu'il fait froid. Et ça, c'est l'application d'un principe que je vous dis parce qu'il est oublié par tout le monde, sauf les vrais physiologistes. C'est le principe du Q10 qui est... Il faut rendre Van't Hoff et Arrhenius. C'est des vieux physiologistes qui sont oubliés de tout le monde. Alors comme ça, moi je leur en parle, donc ça les fait revivre. Qu'est-ce que ça veut dire, Q10? Q10, ça veut dire que mettons que la fréquence cardiaque d'un animal à 37 degrés soit 100. Eh bien, à 27 degrés, elle sera 50. Le Q10, ce sera le quotient de 37 et 26, ce sera 2. Tous les animaux, tous les phénomènes biologiques, quels qu'ils soient, sauf un qui a un rapport avec les rêves, mais dont je n'aurai pas le temps de parler, ont un Q10 compris entre 2 et 3. Donc vous voyez qu'une baisse de température de l'ordre de même de 5 degrés sera suffisante chez ces animaux qui dépendent de la température, qui ne sont incapables d'être libres par rapport au milieu extérieur, eh bien, ces animaux ne pourront pas être éveillés, ils resteront bien dans leur terrier, se mettre dans un coin. Donc à ce moment-là, chez la grenouille, le crapaud, le lézard, on parle de cycle activité-repos. L'homéostasie prédictive joue toujours un jeu, en ce sens que quelque chose vers 5 heures de l'après-midi, qui est déclenché par l'horloge, dit au lézard, tu ferais mieux de rentrer rapidement, te mettre à l'ombre dans ton trio, autrement tu ne pourras pas rentrer parce qu'il fera trop froid. Le système marche, mais l'explication de l'inactivité, on n'a pas besoin de trouver des systèmes bien compliqués. On peut très bien rendre un animal actif ou inactif simplement en le chauffant ou en le mettant au froid. Alors, ce qui nous intéresse, c'est que la plupart d'entre vous, surtout, on est des animaux homéothermes. On a suffisamment de mitochondries qui fait que notre chaleur animale va faire qu'on va être, on va pouvoir se balader quand il fait froid. Et là, je vais vous faire un ou deux petits schémas pour essayer de vous expliquer ce qui s'est passé lors du passage des animaux à sang froid, c'est-à-dire les poïkilothermes, les grenouilles, les grands sauriens, etc., aux petits mammifères. Vous savez que c'était il y a 65 millions et quelques minutes et quelques secondes lorsque est tombé cette espèce d'énorme... Je vais foutre... Lorsqu'est tombé le grand... cette espèce de truc sur la Terre, ou bien enfin les autres explications, quoi qu'il en soit. Il y a eu extinction des gros reptiles et les animaux qui réglaient leur température, les oiseaux qui évoluent peut-être à partir des dinosaures et les petits mammifères ont gagné la course à la surface de la Terre. Et à ce moment-là, la baisse de température n'est pas suffisante pour expliquer puisqu'ils gardent leur température tout le temps. Donc ce n'est pas parce que vous allez mettre un rat à 10 degrés ou que vous allez mettre à 30 degrés que ça va changer quoi que ce soit pour lui, puisque sa température interne sera toujours la même. Donc, c'est à ce moment-là, véritablement, que le sommeil que nous connaissons est apparu. Et je vais vous montrer comment ça s'est fait. Ça s'est fait selon des mécanismes que l'on connaît et des mécanismes que l'on ne connaît pas. Mais on peut toujours essayer de faire un schéma là-dessus. Et je vous ai dit tout à l'heure, il faut essayer d'expliquer pourquoi on est inconscient pendant le sommeil. On arrive maintenant au deuxième chapitre. Pourquoi le ronfleur ne sait pas qu'il ronfle ? Qu'est-ce qui se passe dans le sommeil des homéothermes, c'est-à-dire des oiseaux et des mammifères, comme nous sommes, pour que nous perdions conscience au cours du sommeil ? Pour quelle raison ? C'est facile à comprendre pour une grenouille, puisqu'elle est à basse température, ses systèmes, ça ne marche pas. Mais là, la température reste la même, donc il faut quelque chose. Eh bien, je vais vous faire un petit schéma, très simple, mais en fait qui contient beaucoup d'informations. Voici le cerveau d'un... Bon, on rat. Je n'ose pas parler de chat parce que... Un rat, ça, le cervelet est ici, on n'en parle pas, il ne sert à rien. L'hypophyse, on va vous la mettre ici. Voilà, ça va être tronc cérébral. Bien. L'important, qu'est-ce que les rats, qu'est-ce que les mammifères et les oiseaux ont acquis de plus par rapport aux poïkilothermes ? Eh bien, ils ont acquis, vous le savez tous, ce manteau cortical, avec ça on pense, etc., ce que je fais marcher maintenant, plus ou moins. Et puis, ils ont acquis un système très, très curieux, qui est le thalamus. Le thalamus. Et à l'intérieur du thalamus, il y a une espèce de machine automatique qu'on va voir dans un moment qui nous rend inconscients parce qu'elle fabrique des choses curieuses. Donc voici les yeux, voici, et voici ici l'horloge. Elle est passée juste au-dessus du casse-main, voici l'horloge. Eh bien, les systèmes d'éveil, qu'est-ce qui se passe également ? Lorsqu'on est réveillé, il y a une quantité énorme, une quantité énorme de systèmes qui viennent d'ici, qui montent ici, activer le cortex. Alors, tous ces systèmes, vous devez les connaître, on a dû vous en parler. L'adrénaline, la noradrénaline, la dopamine, on a bien déjà vous parler un peu de la dopamine pour vous dire que ça rendait fou. Il y a un système très important qui part d'ici, qui est l'histamine. Quand vous êtes enrhumé et que vous prenez des antihistaminiques, ça a tendance à vous endormir. Parce que l'histamine était, jusqu'à il y a 2 mois, considérée comme le système d'éveil le plus qui était au-dessus de tous les autres. Puis depuis 2 mois, on en a découvert un autre. Donc ceux d'entre vous qui ne le savent pas, c'est ce qu'on appelle le système à orexine. qui est situé juste au-dessus du système à histamine, et il joue un rôle très important dans l'éveil. Donc l'éveil, c'est un peu un conglomérat de systèmes qui passent son temps à activer le cortex. Bien. Lorsque le cortex est activé, il est rapide, l'activité est très rapide. Et si, par exemple, un signal rentre de mon œil, que je vois quelqu'un ou disons une jolie forme, hein, que je reconnaisse comment ça marche, ça va rentrer ici, 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 ça va passer dans le thalamus, puis ça va arriver à mon cortex visuel. On a dû vous montrer ça plus de détails que je vous le montre, mais on sait que c'est pris en charge par une activité très particulière, comme vous avez dû vous en parler, qui est l'activité gamma. Tout cela va vous donner la conscience de ce que j'ai vu. Parce que l'activité ici, elle est synchronisée, elle marche très bien. Bien. Alors comment est-ce qu'on s'endort ? Eh bien, normalement, on va s'endormir de la façon suivante. Lorsque l'horloge de noyau suprachiasmatique va vous dire « c'est 10 heures du soir », vous allez bâiller, vous allez avoir sommeil, et l'horloge va contrôler par des mécanismes qui sont trop compliqués, va commencer à baisser votre température. Votre température centrale, rectale ou tympanique, ou dans la bouche, descend avant que vous dormiez. Hein, si vous avez regardé ce soir, quand vous commencez à avoir sommeil et tout, prenez votre température, vous verrez que ça commence à dégringoler. Après, ça va continuer. Donc, ordre est donné. À partir de là, on baisse la température et on donne l'ordre à un nouveau système qui est apparu chez les oiseaux et mammifères, qui est le système du sommeil, un des systèmes du sommeil, d'entrer en jeu. Ce système-là, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va venir bloquer les systèmes de l'éveil avec un neurotransmetteur qui est connu, qui est le GABA. Et puis, étant donné que les systèmes de l'éveil bloquent cette machine infernale qui est située en plein milieu du thalamus, comme ils ne pourront plus la bloquer, eh bien, le thalamus va envoyer sur votre cortex une activité comme ceci. C'est comme si sur votre modem de votre d'Internet et tout, vous envoyez la sortie de votre machine à laver, hein, un signal rythmique et tout. Ou bien si vous envoyez dans votre radio des parasites et tout, ça ne marche plus. Parce que votre cortex est en permanence, l'activité de synthèse, de recognition et tout du cortex ne peut pas marcher parce que le thalamus envoie ici des informations. Et c'est pour ça que le ronfleur ne sait pas qu'il ronfle, tout simplement. C'est dû à cette activité-là qui est la meilleure signe du sommeil à la fois chez les oiseaux et chez tous les mammifères. Des fuseaux, on appelle ça, puisque ça commence petit, ça commence puis ça redescend. On a donné à cette activité électrique le nom de fuseau ou, comme ça a été découvert par les Américains, de spindle. Donc, voilà les grandes acquisitions chez les homéothermes. Ce n'est pas la baisse de température centrale qui est toute petite, qui fait qu'ils ne pourront pas réagir au bruit et qu'ils ne savent pas qu'ils ronflent. C'est parce que ce système de sommeil, qui est situé par ici, va jouer donc un rôle de bloquer les informations de l'éveil. Et bloquant les informations de l'éveil, ça va libérer ce système thalamo-cortical. Bien sûr, les choses sont un petit peu plus compliquées, mais en gros, on admet que ça se passe comme ça. On connaît à peu près tous les neurotransmetteurs qui font ça, la plupart sont un type de GABA, et on sait depuis quelque temps qu'à force d'avoir des fuseaux, ça va donner ensuite des grandes ondes lentes, qui sont les grandes ondes lentes du sommeil. Donc on a vu la deuxième, une explication rapide, je dois le dire, une explication rapide de la deuxième chose que je vous avais demandé de retenir, c'est que pourquoi est-ce que le ronfleur ne sait pas qu'il ronfle ? Dès que vous allez sentir les prémices du sommeil, si vous êtes normal, les yeux, il y a tout un conditionnement, bien sûr, avec le milieu extérieur, les yeux qui piquent, un petit peu de sensation de frilosité, votre température va baisser, vous allez vous coucher, et normalement, au bout de 2 minutes, et on va vous taper dessus, tu ronfles, moi non, pas du tout, je ne dormais pas. Vous ne savez pas. Par définition, on ne sait pas quand on s'endort, puisqu'on perd la conscience à cause de cette information-là. Puis après, les choses se compliquent et durent toute la nuit. Troisième chose à expliquer, pourquoi, si vous avez passé toute la nuit à... Toute la nuit... J'ai encore combien de temps? Bon, passer toute la nuit... Là, je vais aller plus vite. Passer toute la nuit à danser, votre sommeil va être plus long. Eh bien, ça, c'est une autre homéostasie. C'est l'homéostasie dite réactive. C'est facile à comprendre. Alpha, c'est activité. Rho, le reste. Plus vous êtes éveillé longtemps, plus votre période de... Non, c'est par ici. Plus vous êtes éveillé longtemps, plus votre période de repos va durer longtemps. Et en même temps, plus votre activité, il y a donc un facteur plus long, mais il y a également un facteur qui a été plus ou moins, qui est plus difficile à voir, c'est qu'il y a voilà le contrôle d'un rat qui dort avec des périodes... regardez simplement ces pics-là, ça veut dire que c'est des ondes lentes du sommeil. Si on le prive de dormir pendant 24 heures, vous voyez que les ondes lentes sont beaucoup plus grandes. C'est-à-dire qu'il y a non seulement un facteur de durée, mais il y a un facteur d'intensité. Eh bien, cet ajustement de la durée du sommeil à la durée de l'éveil, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie réactive. Et donc, on va avoir maintenant, pour expliquer une nuit de sommeil, ceci. Voici ce qui nous est donné par notre horloge. Facteur C, c'est le facteur dû à notre horloge, facteur circadien. Et voici comment on explique, en théorie, parce qu'on n'a pas trouvé, comment on explique l'homéostasie réactive. Pendant l'éveil, voici la température qui monte. Ici, c'est 16 heures, c'est le maximum d'éveil pour l'horloge. Il y a quelque chose qui s'accumulerait dans le cerveau, pour certains, dont je ne suis pas, et qui fait qu'à partir d'un certain moment, lorsque le sommeil arrive, cette chose-là serait utilisée. Bon, voilà la solution normale. Si vous êtes éveillé pendant 2 jours, vous voyez que le sommeil sera plus long. Bien sûr, vous pouvez tout de suite voir que si vous vous mettez, parce qu'on va passer rapidement là-dessus, si vous vous endormiez ici, parce que la température est plus haute, eh bien, votre sommeil sera de bien plus mauvaise qualité que si vous vous endormez ici. Ça va être le problème de l'interaction entre l'horloge qu'on a dans la tête et la récupération du sommeil. Et maintenant, enfin, pour encore arranger les choses, je vous ai parlé du facteur circadien, l'horloge, noyau suprachiasmatique. Le facteur homéostatie réactive, plus on est éveillé longtemps, plus on va dormir profondément. Mais c'est pas tout ça. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est qu'à l'intérieur de tout ça, il y a un facteur ultradien. Et ce facteur ultradien, c'est cette autre forme de sommeil, qui est le sommeil qui ressemble à de l'éveil, qui est le sommeil paradoxal, que j'ai appelé paradoxal, que les Américains appellent maintenant REM sleep, rapid eye movement sleep. Eh bien, très rapidement, on sait que le sommeil paradoxal n'existe certainement pas chez les animaux qui ne règlent pas leur température. Peut-être chez le varan de Komodo, pour ceux qui auront le culot d'aller mettre des électrodes, s'ils ne se feront pas manger. Et à partir des oiseaux, y compris maintenant, on sait, chez le dauphin, on trouve du sommeil ondulante et du sommeil paradoxal. Voilà. Donc, c'est une acquisition qui a été faite il y a 65 millions d'années pour des raisons qu'on ignore malheureusement. Donc ça, c'est l'évolution phylogénétique depuis 65 millions d'années, c'est-à-dire depuis les oiseaux et les reptiles, depuis les oiseaux et les mammifères. Et chez le mammifère, quand apparaît-il après la naissance? Eh bien, après de longues discussions et tout, on pense que ce qui existe chez le fœtus, qu'on a appelé longtemps le sommeil sismique, est quelque chose que probablement très différent parce que ça ne dépend pas du centre nerveux, du sommeil paradoxal. Donc le sommeil paradoxal est très important après la naissance, mais n'a rien à voir avec ce que l'on pensait être autrefois, le sommeil sismique qui existe chez les fœtus de certaines espèces animales. Comment tout cela marche ? Je ne crois pas que j'ai le temps tellement de vous dire comment ça marche le sommeil paradoxal, bien qu'on sache beaucoup mieux comment ça marche que le sommeil rondelant. Sinon que vous retrouvez ici cette coupe du cerveau. Eh bien, ce que l'on sait, c'est une machine qui part du pont. Le sommeil rondelant part de l'hypothalamus. Le sommeil paradoxal, ça part du pont. C'est composé d'un système qui bloque les muscles. Si vous rêvez que vous courez, vous envoyez des tas d'informations motrices dans votre moelle épinière, mais vous ne bougez pas parce qu'il y a un système qui vient bloquer vos mouvements. Il y a un autre système qui vient activer votre cortex, un autre système qui fait bouger les yeux. Mais depuis très peu de temps, on vient de trouver quelque chose de très important, de très très important, qui est la chose suivante. Vous savez, si on ne vous l'a pas expliqué déjà, qu'il est possible de voir en neuroanatomie fonctionnelle les systèmes qui sont actifs pendant un état donné. Grâce à la biologie moléculaire, on sait que certains neurones, lorsqu'ils ont été stimulés pendant longtemps, à partir de ce qu'on appelle les immédiates, alors les gènes, des gènes immédiats, peuvent fabriquer des protéines que l'on trouve dans leur noyau. Si bien que si vous stimulez le système visuel d'une souris et que vous regardez après les protéines fabriquées par ces gènes, vous voyez tout le système visuel qui se développe devant vous. Eh bien, on a fait la même chose pendant le sommeil paradoxal. En comparaison avec le sommeil en glande et avec l'éveil, et on a eu la très grande surprise de voir que certaines structures qui font partie du système limbique, qui sont des structures que l'on pense être impliquées dans la mémoire ou dans les processus peut-être de programmation génétique, sont énormément marquées pendant le sommeil paroxal, infiniment plus que pendant l'éveil, où pourtant Dieu sait, il devrait se passer des tas de choses, et bien sûr que pendant le sommeil lent. Donc, qu'est-ce que c'est que ces neurones ? Est-ce que c'est des neurones qui arrivent à ce moment-là, qui sont fabriqués seulement à ce moment-là ? Vous savez qu'il y a l'idée que les neurones chez les mammifères ne repoussent pas est fausse. Il est possible que le sommeil paradoxal serve à faire fabriquer des neurones qui serviront ensuite pendant la période d'éveil qui suit. Et voilà. Donc maintenant, il me reste 3 minutes. Donc on va arriver à une autre période qui montre que tout cela est bien beau. Là, voilà comment les choses vont. Donc. Alors, ça, c'est pour vous résumer votre nuit de sommeil que vous aurez ce soir. Ce soir, lorsque vous allez vous endormir, vous allez passer, voici ce que vous allez avoir à l'électroencéphalogramme. Vous allez avoir le stade 1, 2, 3. Votre machine à empêcher qui vient du thalamus va vous donner ça. Et puis, si on voit ça au niveau des rythmes, eh bien, vous voyez une nuit de sommeil. Vous allez vous coucher vers 21h30, faire une première période de sommeil profond avec ces grandes ondes lentes. Elles vont préparer l'arrivée du rêve et ce rêve va arriver comme ça à 4 ou 5 épisodes. Donc vous voyez que c'est très compliqué une nuit de sommeil, mais que ça représente l'acquisition chaque fois. L'horloge, 3,5 milliards. Les ondes lentes, 65 millions d'années, sommeil paradoxal probablement à peu près, et tout cela, bien sûr, avec les différences génétiques qu'il peut y avoir entre certains individus et d'autres individus. Mais, et c'est là où je voudrais finir, tout cela, c'était bien beau avant cette date, avant que cet individu, qu'il faudrait brûler en effigie partout, ait inventé la lampe à incandescence. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça a tout foutu par terre. Parce que c'est ce qui nous arrive, c'est qu'on arrive maintenant avec l'interpénétration entre le rythme circadien et l'homéostasie réactive. Là, j'ai mis des Japonais pour ne vexer personne. On sait que les Japonais passent leur temps à dormir partout. Mais donc, ce que l'on sait également, c'est que vouloir faire travailler les gens la nuit, au moment où leur température est la plus basse, déjà il y a une baisse d'activité, au moment où ils ne sont pas préparés par l'homéostasie prédictive pour être en pleine forme, eh bien ça arrive des tas d'accidents. Et bon, je ne vais pas vous raconter, mais on sait que les facteurs humains qui sont responsables de Tchernobyl, Exxon Valdez, Challenger, sont dus à des problèmes de manque de vigilance qui sont dus à des gens qui avaient veillé trop longtemps. Ça a été prouvé plusieurs fois. Donc, importance de la vigilance. Voici un éveil prolongé. Je vais terminer rapidement. Un éveil prolongé pendant 1, 2, 3 jours chez des volontaires sains de l'armée norvégienne. Si, c'est vrai, c'est l'armée norvégienne. Voici leur température centrale. C'est des gens à qui on a dit, pour être officier de l'armée norvégienne, il faut pouvoir supporter une privation de sommeil de 4 jours dans des conditions de combat. Voici, donc là, c'est leur, ils dorment leur première nuit, c'est le contrôle. Ça, c'est leur température rectale. En haut, c'est, normalement, ils devraient être réveillés et tout. Ici, on va voir le nombre d'erreurs qu'ils font pour transmettre un message en pourcent. Très simple, A égale 1, B égale 2, C égale 3. Vous voyez qu'à partir du troisième jour, ils sont incapables de transmettre un message extrêmement simple. Donc, vous voyez, dans les conditions opérationnelles, ce qui se passe. Et ici, c'est montré pour montrer le nombre de minutes qu'il leur faut pour dormir. Quand on les fait fermer les yeux, ça va de, normalement, en pourcentage, c'est à peu près l'ordre d'une demi-minute. Donc la pression de sommeil va bien sûr être modulée par ce rythme circadien, mais vous voyez qu'il est impossible, sauf certaines drogues, de garder des sujets dans un état de vigilance normale. Et il suffit d'une toute petite, de 3 heures de sommeil pour que tout rentre dans l'ordre, et ça, on ne sait pas exactement pourquoi. Tout cela vous semble drôle, c'est l'armée norvégienne. Mais ce qui va vous faire moins rigoler, c'est les chemins de fer suédois. Quelqu'un a pris, vous regardez simplement ces ondes-là, a enregistré sur des conducteurs de locomotives l'activité électrique cérébrale des sujets pour voir ce qui se passait. Et normalement, ils devraient être réveillés, c'est un travail de nuit. Ben, vous voyez qu'à certains moments, la plupart du temps, il y a des signaux rouges et tout, le type dort littéralement énormément. Donc les conducteurs de train en Suède, avant qu'on ait mis de l'ordre, c'est un travail remarquable d'Akerstedt, et je pense que ça doit être pareil en France, malheureusement. Si on ne les met pas dans des conditions normales, ils peuvent très bien s'endormir sans le savoir. Et tous les accidents que vous connaissez, ça peut être toujours expliqué par des troubles de la vigilance. Donc je terminerai là-dessus. L'importance considérable qu'il y a, je vous le dis à nouveau, si vous manquez une nuit de sommeil, il faudra la rembourser. Si vous ne la remboursez pas le week-end, ça va s'accumuler. Si vous la laissez s'accumuler, un jour, vous aurez un accident de voiture. Retenez bien ça, surtout si vous êtes jeune. Chez l'enfant et l'adolescent, hein, voilà. Il ne faut pas qu'il regarde la télévision le soir, il faut le laisser dormir le matin, surtout le week-end. Ne réveillez pas vos enfants tôt, le samedi et le dimanche, ils récupèrent le temps qu'ils ont perdu dans la semaine. Et bien entendu, ça, c'est comme toujours, les médecins ne connaissent pas ce type de pathologie. Voilà. Alors, je termine là-dessus. Et avant que vous me posiez des questions, je vais tout de même dire, il y a deux grands progrès qui ont été faits par la médecine du sommeil qui peuvent peut-être guérir certains d'entre vous. Le premier a trait au rythme circadien. Certains d'entre vous ne vont pas se coucher avant 2h ou 3h du matin. Et ils vont donc se réveiller à 10h, 11h du matin, c'est-à-dire que les cours du matin, c'est fiché. C'est ce qu'on appelle un retard de phase, c'est-à-dire que l'horloge qu'on a dans la tête va se mettre à se retarder, au lieu de se bloquer à 9h pour vous faire dormir vers 9h, 10h, va se retarder. Eh bien, depuis un an, on peut guérir 80% des malades en donnant de la mélatonine, 2 à 3 mg, une demi-heure avant l'heure normale d'aller se coucher, c'est-à-dire à 9h du soir. Donc ceux d'entre vous qui souffrent de cela, plutôt que d'avoir des mauvaises notes parce que vous suivez mal les cours le matin, allez voir les unités de sommeil qui sont dans tous les CHU de France, ils sont excellents ici à Paris. L'autre maladie pour laquelle je n'ai pas eu le temps d'insister, mais sur laquelle il y a eu énormément de progrès qui ont été faits, c'est quelque chose qui appartient à la pathologie du rêve. Je vous ai dit, quand je vous ai montré une des dernières vues, que pendant le rêve, on bloque le tonus musculaire. Mais il existe une maladie qui mélange à la fois une envie invincible de dormir, invincible, c'est-à-dire que si vous êtes invité à l'Élysée, votre tête va tomber dans le potage. Vous ne saurez pas, ce qui n'est pas très bon non plus. Vous ne pourrez pas vous empêcher de le faire. Et ça va s'accompagner très souvent d'une mise en jeu des systèmes de blocage du tonus musculaire. C'est ce qu'on appelle la cataplexie. La cataplexie, c'est quelque chose où vous perdez complètement le tonus, où vous tombez. Ça peut être provoqué par une émotion, par un rire. C'est soit complet, soit, et c'est comme ça que les gens oublient de le signaler à leur médecin, c'est incomplet. Vous avez lâché quelque chose, ou bien les muscles de votre mâchoire, les masséters, vont tomber, et pendant 10 secondes, vous allez pas bouger, et vous allez essayer de le masquer. Si vous avez des envies invincibles de dormir, et si vous avez ces signes-là, vous êtes atteint d'une maladie qui n'est pas très grave, qui est ce qu'on appelle la maladie de Gélino ou la narcolepsie. Allez vite consulter un CHU, les centres de sommeil. Vous avez 80% d'être guéri par les nouvelles médications qui actuellement. Merci.
Bien, maintenant, nous allons passer aux questions.
Ah, alors, pour les questions, je voudrais tout de suite vous dire que je ne répondrai pas aux questions concernant le rêve prémonitoire. Non pas que je n'y crois pas, mais comme je n'ai aucune explication à fournir, je commence à y croire parce que j'en ai eu aussi. La deuxième question sur laquelle je ne répondrai pas, c'est l'insomnie. Je sais que la moitié des Français sont insomniaques, ça m'est un peu, j'aurai pas le temps de vous en parler. Pour le reste, j'accepte tout.
Alors, une question là, et puis une là-bas.
Non, le micro, c'est une marche. Vous avez dit que juste avant le sommeil, il se produisait une baisse de température. Alors, je voudrais savoir comment il se fait alors qu'on s'endort quand il fait plus chaud.
C'est pas du tout contradictoire. Lorsqu'il fait... Oui, vous endormez quand il fait plus chaud dans une conférence où il y a beaucoup de monde, c'est sûr. Mais on sent la température extérieure va mettre en jeu des systèmes de régulation externe qui fait que vous allez transpirer, vous allez mettre en jeu les mécanismes de lutte contre le chaud qui vont faire que ça va baisser votre température. Donc vous avez température interne, température, régulation de la température externe sont deux systèmes totalement différents. Maintenant, ce que je peux vous dire, il y a deux écoles là-dessus, mais comment expliquer cette baisse de température que l'on a au début du sommeil, avant le sommeil, début du sommeil? Comment peut-on perdre de la température? Comment perd-on de la température, en fait, l'homme ou la plupart des animaux? C'est tout simplement en ayant les pieds et les mains qui deviennent rouges. Vous éliminez la température en ayant les pieds qui deviennent chauds et par là toute votre... Les chats peuvent baisser leur température quand ils s'endorment et tout, simplement en ayant les oreilles qui deviennent plus chaudes, quelquefois de 7 degrés. Si vous voyez votre chat qui s'endort ce soir, si vous ne mords pas, regardez la température de ses oreilles lorsqu'il dort par rapport au moment où il est éveillé. Il y a une énorme action parce qu'il y a une vasodilatation énorme et c'est la seule façon de libérer les choses. Maintenant, comment on dort mieux quand il fait chaud? Ça, c'est à discuter. La température qui règle tout, je n'ai pas eu le temps de vous en parler, c'est la thermoneutralité, c'est 27 degrés nu. Nu sur un lit à 27 degrés sans vent, on n'a pas besoin de rien du tout. Si vous dormez, si vous n'avez pas de drap, et que vous dormez à 25 degrés ou à 23 degrés, vous allez avoir des problèmes, vous ne pourrez pas vous endormir. ne pourrez pas vous endormir. Parce que pour s'endormir, il faut que à 1 mm de tous les thermorécepteurs qui sont situés dans la face, la température soit de 27 degrés. Donc, s'il fait 35 degrés dans la pièce, comment vous allez faire pour avoir 27 degrés ici? Vous allez transpirer et vous allez mettre le ventilateur. Autrement, vous ne dormirez pas. Comment fait le rat du désert pour s'endormir avec 27 degrés alors qu'il fait 35 degrés sur le désert? Il fait un tunnel dans le sens des vents dominants, il se lèche, l'évaporation, l'humidité, 27 degrés. Ça aussi, c'est un travail remarquable de physiologie de la thermorégulation fait par quelqu'un qui s'appelait Swan, qui a regardé la température d'endormissement d'une 150 espèces animales différentes, depuis le rat, depuis le renard du Labrador qui s'endort par moins 40, et il a 27 degrés au niveau de sa mouche, parce qu'évidemment il respire, il fait ça, jusqu'au rat du désert et chez l'homme. Donc, quelle que soit la façon de vous endormir le soir, vous vous arrangez par créer un microclimat par votre drap, en mettant votre tête d'une certaine façon, en soufflant de l'air qui est à 38 degrés, 37 degrés, pour que, par ici, il y ait 27 degrés. Et également, l'autre chose qu'il faut que vous sachiez, vous vous couchez toujours d'un certain côté quand vous vous endormez, soit à droite, soit à gauche, mais c'est toujours du même côté. Ça dépend de l'heure, là aussi. Parce que le rythme nasal, les narines, passent leur temps à être soumis, elles aussi, à un autre rythme, qui est un rythme ultradien, c'est-à-dire que toutes les 90 minutes environ, la narine droite se bouche, la narine gauche se débouche, et inversement. Donc regardez bien ce soir de quel côté, sauf si vous faites autre chose, de quel côté vous allez vous endormir, vous verrez que vous vous endormez du côté où votre narine est bouchée.
Une question ici.
Bonsoir, monsieur. Vous nous avez expliqué qu'est-ce qui pouvait justifier l'inactivité et qu'est-ce qui pouvait faire qu'il y avait des périodes d'activité et d'inactivité. Mais moi, je n'ai toujours pas compris en quoi le sommeil est nécessaire. Est-ce que vous avez un point de vue là-dessus? Parce que peut-être qu'on ne le sait pas. Est-ce que vous avez une idée?
Non, j'aurais pu faire la conférence là-dessus en disant que j'étais un conservateur des hypothèses. Et j'en avais revu à peu près 160 sur la fonction du sommeil. Et je me suis dit que ce serait un peu long. Le plus grand mystère, riddle, comme disent mes amis américains, on pensait que c'était l'autre siècle, maintenant ça passe à ce nouveau siècle, c'est le mystère des fonctions du sommeil. Personne n'en sait strictement rien, pour la bonne raison que toutes les fois qu'on émet une hypothèse, qui marche très bien, il y a toujours quelqu'un, ou un animal, ou n'importe quoi, qui montre que ce n'est pas vrai. J'avais passé, il y a 2 ans ou 3 ans, 3 mois dans les terres australes françaises, et j'ai regardé le sommeil avec l'équipe de l'EMAO de Strasbourg, le sommeil des manchots royaux. Les manchots royaux, quand la femelle pond un œuf, un grand comportement de salutation, elle donne l'œuf au mâle, et elle fiche le camp. Et le mâle, il reste... Et il couvre l'œuf sur son espèce de système qui est au niveau des pieds, qui est plus chaud, et il a 1 mètre carré. C'est-à-dire qu'il y a 500 000 manchots dans un truc qui est à peu près 4 ou 5 fois plus grand que cette pièce. Alors vous voyez qu'ils ont 1 mètre carré, ils passent leur temps à défendre leur territoire à coups de bec et à coups d'ailes. Jour et nuit. Donc pendant qu'ils couvrent, pendant 2 mois, on est certain qu'ils ne dorment pas, et bien sûr qu'ils ne rêvent pas, dans la mesure où les oiseaux rêvent. Bien. Quand la femelle revient, bonjour, bonjour, le mari lui donne, le petit poussin vient de naître, donc il a déjà plein de poils, la femelle va s'en occuper, elle régurgite les poissons qu'elle a eu au petit poussin. Le mâle, qui a été privé de sommeil pendant 2 mois, qu'est-ce que vous croyez qu'il va faire? Est-ce qu'il va dormir ou est-ce qu'il va manger? Le pauvre, il crève tellement de faim qu'il part, et pendant un mois et demi, il va aller se nourrir, il va faire 300 km s'il n'est pas bouffé par les arcs, il plonge à 300 mètres, il se remplit l'estomac, et c'est seulement après, donc 3 mois et demi à 4 mois, qu'il va pouvoir dormir. Donc si on envoyait pendant ces 4 mois un étudiant qui vient en disant « Est-ce que le sommeil sert à quelque chose ?» Il dirait non, mais la preuve, c'est pas. Le sommeil sert à strictement rien. Donc voilà une preuve montrant que dans certaines conditions éco-éthologiques, il y a des périodes très longues pendant lesquelles un animal peut fort bien survivre sans sommeil. À côté de ça, il y a ce monstre qui n'a pas d'horloge et qui dort tout le temps, c'est le chat, sur lequel tout le monde a travaillé. Alors, on a passé son temps à faire une physiologie du sommeil chez un animal qui dort 20 heures sur 24, et on voit de temps en temps des animaux qui ne dorment pas. Et il existe, bien sûr, des facteurs génétiques. Tout le monde en a des histoires comme ça à raconter dans les services de sommeil. Moi, j'ai deux malades, ce ne sont pas des malades, des gens parfaitement normaux que j'ai réussi à enregistrer par des relations amicales, qui ne dorment que 3 heures par jour, par nuit plutôt. Jusqu'à 4 heures, ils lisent, travaillent, ils font n'importe quoi. À 4 heures, paf, posent leur livre. 90 minutes de sommeil en glante, suivi de 90 minutes de rêve, pan, 7 heures, au revoir. Guéri. Puis 3 heures. C'est comme toute courbe de Gauss. Vous avez une répartition obligatoirement génétique ou hasard que toute durée de sommeil est à peu près 8 heures ici, mais on sait que c'est 3 heures minimum. On ne connaît personne qui puisse avoir moins de 3 heures de sommeil. Et on sait que ces gens-là, si on ne leur donne qu'une heure de sommeil, eh bien, ils vont avoir une homéostasie réactive, c'est-à-dire qu'ils dormiront plus. 3 heures, c'est la limite inférieure. C'est pas beaucoup tout de même. Alors, ils ont une double vie ou une triple vie. En général, ils sont très heureux. Ceux qui sont là, ceux qui ont besoin de 16 heures de sommeil, ben, j'aime autant vous dire que j'ai connu un percepteur qui avait 16 heures de sommeil. Le pauvre, il a été très rapidement viré parce qu'il se trompait toujours dans ses additions. Maintenant, heureusement, on a des drogues qui permettent de réveiller ceux qui sont là. Mais il n'y a pas... Je dois vous dire qu'après 50 ans, malheureusement, c'est un aveu d'ignorance, si on me demandait avec une baïonnette dans le dos de donner la fonction ou les fonctions du sommeil, autrement je suis fusillé, je serais extraordinairement embêté. Je ne crois pas que j'y arriverais. C'est comme les fonctions possibles du rêve. Moi, je pense toujours que c'est en rapport avec une programmation génétique. Et les dernières expériences qu'on fait ne sont pas contre, mais on ne le sait pas. Et c'est de la physiologie compliquée, c'est de la physiologie intégrée, et c'est de la physiologie pour laquelle il n'y a plus tellement de vieux professeurs qui l'enseignent. Et elle est longue, elle est dure à apprendre, et il y a de moins en moins de laboratoires qui l'étudient. C'est-à-dire qu'on se disait, à l'an 2000, on aura tout trouvé. Quand on était dans les années 60, on n'a rien trouvé du tout. Mais étant donné la diminution presque exponentielle du nombre d'articles sur le sommeil, pas sur le ronflement, sur le sommeil, eh bien, il y a beaucoup moins de chercheurs qui travaillent là-dessus parce qu'on ne donne pas l'argent là-dessus. On la donne essentiellement à la biologie moléculaire, pensant que, en tuant des souris éveillées et en tuant des souris endormies, ils trouveront le gène du sommeil.
Une question ici, puis une là.
Monsieur, bonsoir. Alors, bonsoir. Trois petites choses. La première, est-ce que la glande thyroïde joue un rôle important dans le sommeil? La deuxième, c'est le décalage horaire. Après un très long voyage en avion, comment se fait-il qu'on puisse dormir 19 heures? Et la troisième chose, vous en avez parlé tout à l'heure, ce sont les sinus. Comment fait une personne avec un déplacement de la cloison nasale et une sinusite pour s'endormir? Ça fait rire peut-être certaines personnes, mais c'est mon cas. J'ai un déplacement de la cloison nasale. Ça fait rire, je suis désolé. J'ai un déplacement de la cloison nasale. J'ai un côté qui est plus obstrué que l'autre. Et par-dessus le marché, je me retrouve avec une sinusite.
Alors, la thyroïde, comme tout, il n'y a pas une glande qui participe au sommeil. Donc, on a cherché ça, on a enlevé toutes les glandes possibles et imaginables. Les maladies de basse dos ont des petits troubles du sommeil par rapport au mix édémateux, mais la thyroïde ne joue pas un rôle nécessaire pour l'apparition du sommeil. Le jet lag rentre dans les stupidités qui nous arrivent dessus depuis Edison, c'est-à-dire qu'on passe son temps à bouleverser notre horloge. Si vous allez vers la Californie, si vous suivez le soleil, c'est toujours très bien. Il faut toujours suivre le soleil, parce que vous arriverez à un moment où vous aurez, si vous vous couchez tout de suite, vous aurez une très longue nuit. Si vous allez contre le soleil et si vous voyagez en classe touriste dans une société que je n'aurais pas nommée, hein, parce qu'on ne peut pas non plus étendre ses pieds et qu'on est mal servi, vous ne dormirez certainement pas la nuit. Donc vous allez arriver le matin à Orly ou à Roissy avec une nuit qui va vous manquer, donc une nuit, et puis vous avez devant vous une journée où il faut travailler. Donc le soir même, vous aurez donc cette fameuse retard de jour qu'on a vu tout à l'heure. Mais là aussi, il existe maintenant une possibilité d'avoir des drogues qui luttent un peu contre le jet lag, ne serait-ce que le café ou le thé. Les autres ne sont pas encore permises obligatoirement. Si vous avez cette sinusite et vous êtes bouché, vous avez une sinusite bilatérale. Je le plains beaucoup, ce monsieur qui a une sinusite bilatérale, parce qu'il doit ronfler horriblement, il doit ouvrir la bouche.
Mes chambres à part, étant donné que je ronfle énormément. Et moi, par-dessus le marché, ça me gêne énormément parce que je n'ai pas une respiration très très bonne et je fais de l'asthme par-dessus le marché. Je sais, je fais peut-être rire beaucoup de personnes, mais ça me pose un très gros handicap. Normalement, j'ai une opération chirurgicale qui devait intervenir au mois de février, le 16, pour une chirurgie réparatrice. Respirer correctement. Attendez, ça va même plus loin parce que j'ai l'anesthésiste qui a téléphoné comme quoi cette opération était refusée étant donné mon état de santé.
Eh bien écoutez, j'espère que ça s'arrangera.
Juste deux dernières questions, une question là et une question là.
Oui, alors vous avez parlé tout à l'heure rôle de la glande pinéale qui était informée via le réseau lymphatique.
Ganglion cervical, ça passe là, oui. Vient d'aller directement là, ça dégringole là, puis ça remonte.
Donc, est-ce que les gens qui sont tétraplégiques par une rupture des cervicales ont des troubles du sommeil? Et la deuxième question, c'est...
Très bonne question, en effet.
C'était sur le décalage entre heure d'été et heure d'hiver. Est-ce que ça crée des...
Non, bon, ça, il ne faut pas pousser les choses. Je dirais qu'à Bordeaux, les Bordelais ne sont pas particulièrement malins, à Bordeaux, le décalage est très important parce que à l'heure d'été, le soleil se couche beaucoup plus tard chez eux, une heure plus tard qu'ici, puis une heure plus tard qu'à l'est. Donc pour les Bordelais, c'est très important l'heure d'été et l'heure d'hiver. Mais ici, où moi, ce qui habite dans l'Est, ce n'est pas très important. Pour le sympathique, il existe une maladie. Quelqu'un qui est tétraplégique ne sait pas obligatoirement bousiller son faisceau, j'espère pour lui, mais il peut, son faisceau intermédio-latéralis. S'il a une lésion de ce faisceau intermédio-latéralis, il aura obligatoirement, en effet, des troubles au niveau de la pinéale, donc des troubles au niveau de son horloge. Et la meilleure façon de le savoir, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous le faites cracher, les dosages par radio-immunoassay de la mélatonine sont pas chers, et il suffit de le faire cracher jour et nuit, pendant une nuit, on verra bien si sa mélatonine marche. Ça, c'est très simple. Ou même, si on veut aller plus rapidement, vous le mettez une heure à grande lumière, puis une heure à l'obscurité. L'obscurité est suffisante pour faire monter la mélatonine. Si son système ne marche pas, on ne verra pas de montée de mélatonine. Mais je pense que dans l'hôpital où il est, c'est des choses qui doivent être bien connues, donc on doit pouvoir le faire.
Une toute dernière, et je l'espère, rapide question.
Oui. Donc, Cocteau disait qu'il préférait vivre la nuit, est-ce qu'il y aurait un enjeu à cibler les phases du sommeil paradoxal pour développer l'intelligence humaine?
Je ne crois pas qu'il y ait un rapport. Là aussi, on va dire, l'animal qui a le plus de sommeil paradoxal, c'est le chat. Parmi à peu près toutes les espèces beaucoup plus que l'homme, le lion et le chat. Le lion mâle, le mâle. Un lion mâle, il mange une vache qui lui a apporté les lionnes, puis le reste du temps, il dort et il rêve. Donc il n'y a pas de rapport immédiat entre l'intelligence et le sommeil. Ça a été Oui, on sait que pendant le développement, que des troubles du sommeil peuvent avoir des conséquences très péjoratives pour l'enfant, ça c'est sûr. Pourquoi ? On peut toujours en discuter. Certains disent que c'est à cause du sommeil paroxystal, d'autres, probablement avec autant de vérité, pensent que, je n'ai pas eu le temps de vous en parler, mais ça fait partie de l'homéostasie prédictive, on libère au début du sommeil de l'hormone de croissance, pendant le premier cycle de sommeil, au moins chez les enfants, les adolescents, un peu moins chez les vieux comme moi, ça ne marche plus. Si vous avez des enfants qui dorment mal, soit pour des conditions qui sont malades ou pour des conditions socio-économiques, si on est dans des milieux où il y a du chahut, tout le temps la télévision, 7 personnes par pièce, les gens qui mettent du chahut toute la nuit, ils dorment mal et on a décrit ce qu'on appelle des nanismes psychosociaux que l'on guérit en mettant tout simplement les enfants à l'hôpital, sans rien leur faire, ils peuvent dormir. C'est des cas rares, hein, faut pas admettre que... Mais ça a été décrit. Mais le sommeil est certainement très important pour l'enfant et l'adolescent. Et l'adolescent. Pour ça que... Comment savoir si vous dormez assez ? C'est toujours ça ce que me demandaient autrefois mes malades. Est-ce que je dors assez ? Je dis, c'est exact. Vous savez que vous avez dormi assez si vous n'avez pas envie de dormir dans la journée, en particulier vers la sieste et tout. Vous savez que votre niveau de sommeil est bien si vous, le samedi et le dimanche, vous ne dormez pas 2 ou 3 heures de plus. Si vous dormez 2 ou 3 heures de plus le samedi et le dimanche, c'est que vous avez mangé 10, 15, 20 minutes par jour de votre sommeil. Parce qu'il y a une adaptation, dont je n'ai pas eu le temps de rentrer dans les mécanismes, qui se fait à quelques minutes près. J'ai un de mes collègues américains qui a diminué le sommeil d'étudiants, donc d'adolescents, seulement de 15 minutes par jour pendant la semaine. Et il a vu qu'il s'est récupéré le samedi et le dimanche. Et s'il les empêchait de récupérer le samedi et le dimanche, le samedi et le dimanche et tout, il arrivait à la fin à avoir des types qui s'endormaient dans la journée. Donc il y a une homéostasie chez les jeunes, chez les gens qui ont passé un certain âge, mais qui ont passé leur temps à charger de sommeil tout le temps, c'est moins important. Mais je dirais que jusqu'à l'âge de l'armée, c'est très important de bien dormir. Il n'y a qu'un type d'individus qui se foutent complètement du rythme circadien, ce sont les marins. Les marins, ils ont le quart, et quoi qu'il arrive, ils ne changeront jamais. C'est le quart, on ne change pas, ça a toujours été comme ça, et ça ne change pas. Et les marins, est-ce que c'est les plus intelligents ? Je réponds.
Professeur Jouvet, merci.
Merci.